Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait, avec Luca Gandros Fernandez sur Radio Prévert.
Dans la nuit du dimanche 10 octobre 1683, soit 2 mois après la mort de la reine Marie-Thérèse, nous sommes dans la chapelle du château de Versailles et Louis s'apprête à épouser dans le plus grand des secrets Madame de Maintenon. Dans le plus grand des secrets, si bien qu'il n'y a aucune trace écrite qui atteste de ce mariage qui, pendant près de 30 ans, sera ignoré de la majeure partie de la cour. Cette Madame de Maintenon n'est cependant pas la première de ses amours. J'ai consacré une émission à deux d'entre elles, Marie, le premier amour du roi, et Madame de Lavallière, amoureuse de lui jusqu'à sa mort. Je vous propose de revenir sur deux autres qui, elles aussi, ont touché de différentes manières le cœur du roi Soleil.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
Avant de nous intéresser à Madame de Maintenon, nous allons parler de Madame de Montespan. Et quelle Madame ? Laissez-moi vous raconter, pour vous prouver son originalité et l'originalité de la relation qui s'est établie entre elle et le roi, l'épisode d'un matin de 1667. Ce matin-là, le roi s'est déguisé en serviteur et se dirige, de façon assez sournoise, vers les appartements de sa maîtresse, Madame de Montespan. Alors qu'elle prend son bain, elle aperçoit ce serviteur, mais elle n'est pas dupe et elle l'a tout de suite reconnu. Elle sourit et d'une façon très sensuelle, enlève délicatement la serviette qui l'entoure. Voilà comment peut se comporter Françoise de Rochechouart de Montemar, marquise de Montespan, qui se fait au passage appeler Athénaïs. Louis XIV aurait pu remarquer bien avant la jeune femme, mais puisqu'il était en grand amour avec Louise de Lavallière, il l'a laissée un petit peu de côté. Et lorsque leur relation vient à l'ennuyer, c'est tout naturellement qu'il se tourne vers cette magnifique jeune femme. Voilà la description que nous en fait Hervé Banteja. C'est la plus jolie, pas seulement par l'abondante chevelure blonde, l'azur des yeux, le nez fier, les lèvres carmin, les dents parfaites, pas seulement par le corps voluptueux et admirablement proportionné, pas seulement par l'aisance et le raffinement de toute sa personne, mais aussi par son exceptionnel esprit, l'esprit Montemar, fait de plaisanteries, de saillies originales, du sens de la répartie, du don d'imitation, de l'art de tourner en dérision les ridicules de la cour. Vive, amusante, piquante, Athénaïs, qui a 26 ans, conjugue beauté, sensualité et humour. En plus de toutes ses qualités, c'est une très bonne comédienne. Et le roi s'en aperçoit au Palais des Muses, qui est une bouffonnerie écrite par Isaac de Banzerat. On le voit dès lors inviter plus que d'habitude la belle Athénaïs à monter dans son carrosse avec la reine et quelquefois avec son autre maîtresse, Madame de Lavallière. Elle se rend bien compte de l'ascendant qu'elle exerce sur le roi. Et puisque son mari est parti chercher fortune à l'armée, on pourrait se dire que ce devrait être plus facile pour elle de céder. Mais non, elle résiste encore et toujours aux avances du roi. Elle est réellement éprise de son mari, ce qui est une exception à l'époque où les mariages amoureux sont très peu présents. Elle ne veut pas devenir favorite ni même maîtresse du roi. Mais si elle ne cède pas physiquement, elle s'autorise de régner sur l'esprit du roi. Issue d'une grande famille, elle a de l'ambition, beaucoup d'ambition. Elle adore le pouvoir autant que le luxe et le faste. En juin, cependant, elle cède à la tentation alors que le roi est en pleine campagne militaire, notez au passage qu'il s'était déguisé en garde suisse pour passer inaperçu, chose ratée. Voilà la passion lancée, passion qui durera 10 ans dans laquelle Louis ne peut plus vivre sans Athénaïs au point de lui faire installer des appartements de 20 pièces, soit plus grands que la reine, près de ses propres appartements, avec tout le luxe possible et imaginable, tentures de brocart, bronze, objets d'art, tableaux de grands maîtres de l'époque, et j'en oublie sûrement. Quand elle le reçoit, il se passe des choses assez spéciales dans ses appartements. Écoutez le livre « Louis XIV amoureux ». Elle le reçoit en déshabillé, juché sur des mules à haut talons, paré de perles et de diamants, dans une atmosphère chargée de parfums entêtants, au milieu d'une exubérance de fleurs et d'une ménagerie où se côtoient des chèvres, des agneaux, des perroquets et autres oiseaux exotiques, des petits cochons accoutrés de costumes grotesques, des souris attelées à des carrosses miniatures et même des ours, Bien sûr, Louis XIV lui offre une multitude de cadeaux. D'ailleurs, ce fut elle la plus gâtée de toutes les autres favorites. Et parmi ces cadeaux, on compte des bijoux, dont un coûtant près de 600 000 livres, soit 9 millions d'euros aujourd'hui. Un château, le château de Clagny, qu'il fait construire à Versailles, toujours dans un grand luxe, qui mobilisera près de 1 000 ouvriers pour un total de 30 millions d'euros, soit 2% du budget annuel de l'État, sans oublier les rentes qu'il lui alloue. Il donne aussi de l'argent à sa famille et dote d'emplois prestigieux ces derniers, comme par exemple son père qui sera fait gouverneur de Paris, son frère maréchal et vice-roi de Sicile, et sa sœur, abbesse de Fontevraud. La reine, quant à elle, ne peut qu'observer, se lamenter, en espagnol, souvenez-vous, elle vient de là-bas. « Cette pute me fera mourir !» Eh oui, c'est assez drôle. En 1668, cependant, le mari de Madame de Montespan, Louis-Henri de Bartaillan, rentre à Paris. Après s'être battu contre les barbaresques et voyagé de campagne en campagne, il est criblé de dettes. Il adore jouer, et c'est là son grand défaut. Lorsqu'il apprend la liaison entre sa femme et le roi, il explose de colère et débarque à la cour pour s'apercevoir qu'elle est enceinte. Entre insultes, menaces et violences, il ne décolère pas. À chaque fois qu'il va quelque part, il se vante de fréquenter les bordels afin de transmettre à sa femme une maladie sexuellement transmissible. Bon, il n'utilisait pas ce terme à l'époque. Louis XIV envoie vite le mari parler de cachet en prison, puis l'exile dans son château de Guyenne. Et c'est dans ce château-là, en compagnie de ses enfants, de sa mère et de ses domestiques, qu'il va organiser les funérailles symboliques de sa femme, alors qu'elle est toujours bien vivante. Il va même faire abattre le portail du château, écoutez bien, parce qu'il serait trop bas pour qu'il puisse y passer avec ses cornes de cocu. Il obtiendra finalement le divorce en 1674 et s'éteindra à Toulouse en 1701. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons plutôt à notre Athénaïs. Même si Athénaïs n'a aucun rôle politique, tout comme les autres maîtresses du roi, elle a une sorte de rôle culturel auprès de Louis, puisqu'elle s'entoure d'artistes et d'écrivains qu'elle va soutenir et protéger. On peut compter parmi eux Molière, Racine, Boileau et La Fontaine. Et malgré qu'elle soit jalouse, capricieuse, colérique, elle est généreuse. Elle accouche de 7 enfants qu'il va tous légitimer, même si quand elle sera enceinte, il ira voir ailleurs. Mais l'Église, cependant, ne voit pas ses relations d'un très bon œil. Et parmi ces gens d'Église, on retrouve le père Bourdaloue qui dénonce l'inconduite du roi, Bossuet qui, par de grands entretiens avec lui, tente de faire renvoyer la maîtresse royale, et cette affaire prend tellement d'ampleur qu'un modeste prêtre va même jusqu'à refuser la communion à à la marquise. Le roi ne peut être que troublé. Il prend alors congé d'Athénaïs et part en guerre, mais lorsqu'il revient, il retourne voir sa favorite. Cette relation a l'air parfaite, si parfaite qu'elle paraît éternelle. Mais c'était sans compter sur une autre jeune femme, Marie-Angélique de Fontanges. Je dis jeune femme, je pourrais presque dire jeune fille, puisqu'elle a à peine 18 ans, tandis qu'Athénaïs en a plus du double. Sans compter que son corps a aussi été abîmé par ses nombreuses grossesses. En 1676, un procès fut mené, celui de la marquise de Brivilliers. Vous allez comprendre le lien entre la marquise et entre cette affaire et la marquise. Elle aurait empoisonné toute sa famille et sur le bûcher, elle aurait déclaré que d'autres femmes de la cour avaient les mêmes fournisseurs qu'elle. Et oui, c'est la fameuse affaire des poisons. Une enquête est menée, une liste est établie, et parmi les femmes citées, on retrouve le nom d'Athénaïs. Le roi étouffe l'affaire, bien sûr, et la marquise ne sera jamais inquiétée, mais peut-être voulait-elle s'en servir contre Marie-Angélique de Fontanges. Qui sait ? Marie-Angélique ne sera cependant qu'une passade, mais dans l'ombre se cache quelqu'un d'autre, une autre femme. Son nom ? Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Louis, qui déteste les ruptures et aime toujours Athénaïs pour son esprit et pour son esprit seulement, l'autorise à rester à Versailles, ce qu'elle va faire, et ce durant quelques années. Mais en 1685, elle est contrainte de quitter ses appartements grandioses pour de plus petits, et 2 ans plus tard, le roi arrête définitivement ses visites quotidiennes. C'est le début de la fin. Athénaïs s'obstine à rester à Versailles, mais en 1691, elle arrête de se cacher la vérité et décide de se retirer de Versailles pour un couvent à Paris. Elle quitte ce monde en 1707, à 67 ans, et selon Saint-Simon, elle n'aurait rien perdu de sa grande beauté. Lorsque le roi l'apprend, il n'a aucune réaction et part à la chasse, comme prévu. À son retour, il s'écartera cependant de sa suite pour marcher seul, pensif, jusqu'à la nuit tombée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera passée durant cette relation de la grandeur des beaux appartements, du faste de la cour, à l'indifférence. Indifférence des femmes qu'elle côtoyait au monastère, de son unique pièce au couvent et, par-dessus tout, et c'est ce qui fait le plus mal au cœur, de l'indifférence du roi.
Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Luca Gondros Fernandez.
Pour finir cette émission, nous allons parler de Madame de Maintenon. De son vrai nom, Françoise d'Aubigné, c'est la petite fille d'un grand poète, Agrippa d'Aubigné, protestant mais aussi compagnon d'armes d'Henri IV, et oui, rien que ça. Son père, pourtant, n'est pas aussi doué. On pourrait parler d'un bon à rien, d'un ivrogne, d'un aventurier et même d'un assassin. Il va en effet tuer, à coups de poignard, sa première femme, coupable d'adultère. Il voyage dans toute l'Europe à la recherche d'argent et est même incapable de faire vivre sa famille, composée donc de sa deuxième femme, de deux fils et d'une fille, Françoise d'Aubigné. Ils passent leur enfance, ainsi que leur jeunesse, en province, allant de pension en pension. Ils vivent dans la misère. Ils se font même quelquefois renvoyer parce que leur mère n'a pas assez d'argent pour payer. Ils artent aussi chez des parents pauvres, des tantes, mais aussi des familles apparentées. À 15 ans, on la place chez une parente, femme du gouverneur de Niort. Elle est très maltraitée, aussi bien que des domestiques. Cette femme ne veut qu'une chose, la placer dans un couvent pour s'en débarrasser et par la même occasion, pour éradiquer le reste de protestantisme de la jeune fille. Mais grâce à sa cousine, elle va rencontrer un poète aussi romancier et dramaturge, j'ai nommé le fameux Paul Scarron. Il n'est pas attirant physiquement, c'est vrai, et en plus de cela, il est atteint d'une maladie. Voici ce que nous en dit Hervé Banteja. Perclus de rhumatisme qui bloque toutes ses articulations, son corps est affreusement déformé. Corseté dans une jatte de terre, il est incapable de se déplacer et n'a de libre que le mouvement de ses doigts. La première fois qu'il la rencontre, il est ébloui. Elle est magnifique, grande, un beau teint et un beau visage, sans compter ses magnifiques yeux. Comment ne pas être sous le charme? Et l'année suivante, il la demande en mariage. Or, au début, certes, elle est épouvantée, cet homme est horrible, mais elle sait compter et elle préfère passer sa vie avec lui plutôt que de la passer chez les religieuses. Le mariage aura bien lieu, elle a 17 ans, il en a 42. Grâce à lui, elle va perfectionner son savoir, elle côtoie tous les plus beaux esprits de Paris dans son salon. Parmi eux, Ménage, Pélisson, Saint-Amand, Tristan l'Ermite, Mademoiselle de Scudéry, Madame de Sévigné, Boisrobert, Ninon de l'Enclos, Saint-Évremond, et j'en oublie sûrement. On les appelle les libertins, non pas à cause de leurs mœurs, mais parce qu'ils jouissent d'une liberté de pensée sans pareille. Elle apprend vite la belle indienne. Et oui, c'est ainsi qu'on la surnomme en raison d'un séjour aux Antilles. Et c'est grâce à cette culture que plus tard, elle pourra s'imposer face aux autres dames de la cour. En parlant de cour, beaucoup des personnes de ce salon la lui font, mais elle ne cède pas, elle résiste toujours et encore. Après 8 ans de mariage, Scarron vient à mourir dans d'atroces souffrances, laissant une veuve de 25 ans très touchée par cet événement. Et de nouveau, elle passe pour l'amie pauvre que l'on héberge avec une grande compassion. Enfin, désormais, elle connaît du monde, beaucoup de monde, et parmi ces personnes, une certaine Madame de Montespan. Comme quoi, tout se rejoint. Elle va facilement lui obtenir une rente de la reine-mère, Anne d'Autriche, et on peut commencer à voir Françoise s'éloigner des amis trop sulfureux de son ex-mari. Elle ne pense dès lors qu'à la dévotion, au sérieux et à la respectabilité. Elle s'autorise tout de même un seul amant, le marquis de Villarceau, au passage marié, mais il faut le dire, cette relation sera secrète et courte. Je vous racontais il y a quelques instants l'ascension d'Athénaïs, qui est désormais maîtresse de Louis XIV, et de cette union naît des enfants, et il faut bien s'en occuper. C'est là que Françoise entre en scène. Dès le deuxième enfant de cette relation, on lui confie la garde de ses bâtards, il s'installe dans une grande maison avec un beau jardin à Paris, et le roi, qui s'intéresse à sa progéniture, passe de plus en plus de temps dans cette maison. Et il la remarque, cette splendide gouvernante, qui, ayant bien compris qu'elle n'était pas indifférente au roi, se garde bien de faire la coquette. Elle est impressionnée par cet homme majestueux et royal, mais pas un moment, elle ne pense à céder. Elle ne veut pas être une passade de plus dont le roi se lasserait rapidement comme il a fait avec tant d'autres. À la fin de l'année 1673, Louis reconnaît officiellement les enfants nés des amours de Louis et de la marquise de Montespan. Ils vont maintenant devoir vivre à la cour et avec eux, Françoise, que l'on appelle Madame Scarron. Et oui, elle a gardé le nom de son mari. Le roi et elle se voient pratiquement tous les jours, mais dans une cour où chaque mouvement est scruté. La prudence reste de mise pour la jeune femme. Cependant, Louis est un obstiné, dans tous les domaines, mais encore plus dans celui de l'amour. Il lui offre des gratifications royales, accorde à ses proches des places, au point qu'elle va bientôt pouvoir s'acheter la terre du château de Maintenon. À 40 ans, elle a enfin sa maison à elle. Athénaïs a très vite compris l'amour entre la gouvernante et le roi, et elle s'en est aussi vite inquiétée. Les deux femmes ont des relations très tendues et Athénaïs va même jusqu'à essayer de la marier avec un duc riche parti, mais vieux et vilain bonhomme qui, en plus, est bossu. Bon, l'affaire, vous vous en doutez, n'aboutira pas. Mais Françoise, qui maintenant est devenue Madame de Maintenon, tombe enfin amoureuse du roi. Bon, il faut le dire, un petit peu sous l'influence de la cour. L'année 1675 marque le moment où Françoise cède. Enfin, on pourrait dire. Mais elle cède pour mieux se reprendre. En effet, pendant près de 4 ans, elle gardera une retenue malgré tous les efforts du roi pour l'en dissuader. Pourtant, ça ne fait plus de doute, elle aime Louis XIV d'un amour profond. Et ça ne fait plus de doute non plus, la guerre entre les deux madames est déclarée. Et pour couronner le tout, on préfère largement Athénaïs à Françoise. La princesse palatine, la belle-sœur du roi, la traite de truie, de vieille taupe et même de crotte de souris. En 1681, elle est promue dame d'atour de la dauphine et tous les soirs de 8h à 10h, elle rend visite au roi. Quand on pense aux nombreuses amantes que Louis a eues pendant près de 25 ans, on ne peut pas s'imaginer que cette Françoise sera le dernier amour du roi. Et pourtant, durant 35 ans, il ne restera fidèle qu'à une seule et unique femme, Madame de Maintenon. Il ne l'apprécie pas que pour sa beauté, il l'aime aussi pour sa distinction, sa solidité, sa discrétion, son intelligence et son cœur. Mais avec le temps, le roi change. Voici ce que nous en dit le livre Louis XIV amoureux. Elle s'aperçoit qu'avec l'âge, le roi est devenu autoritaire, voire tyrannique, buté, égocentrique, ne supportant pas la moindre contestation, peu tendre, exigeant de l'avoir à sa disposition à tout moment. Elle devra supporter jusqu'à la fin son appétit sexuel vorace et souvent brutal. Il couche avec sa vieille tous les après-midi, note la palatine à la fin du siècle. Et à la cour, ça ne va pas mieux. Elle n'est pas plus aimée qu'avant et contrairement à la légende, elle n'a aucun rôle politique. Cependant, elle a une sorte de combat contre la misère, cette misère qu'elle connaît si bien. Elle fait distribuer du bois pour le chauffage, visite les hôpitaux, aide les paysans démunis, crée à Saint-Cyr un établissement ayant pour but d'éduquer les jeunes filles de la pauvre noblesse. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'elle y trouvera refuge lorsque son mari se montrera un petit peu trop violent. Souvenez-vous, ils se sont mariés, je vous en ai parlé en tout début d'émission, c'était dans le plus grand des secrets. Louis a 70 ans maintenant et Françoise est toujours là, près de lui, droite, vaillante, et réconfortante. Le 29 août 1715, elle est au chevet du roi, qui depuis 15 jours est couché. Il est malade. Il lui tient la main, un geste si symbolique, mais si intentionné pour ce roi. Il la regarde, la contemple, puis dans un dernier souffle lui dit « Madame, je ne vous ai pas rendue heureuse. » Il mourra 2 jours plus tard. Elle s'éteindra quelque 3 ans après. Nous pouvons en conclure que seule la mort aura pu les séparer, mais que pour très peu de temps.
Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait, avec Lucas Gandros Fernandez sur Radio Prévert.
Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode sur Radio Prévert.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.